Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. Et maintenant, RFI Midi, présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. RFI Midi, 2h30 ensemble, avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux sur tous les continents et avec nos invités pour essayer de comprendre aujourd'hui cette annonce de Donald Trump. Une surprise de plus, le président américain a annoncé hier que son pays avait engagé des négociations avec l'Iran sur le programme nucléaire de Téhéran et il l'a dit devant le premier ministre israélien qui était en visite à Washington.
Nous avons des discussions directes avec l'Iran. Elles ont commencé et elles continueront samedi avec une très grosse réunion et nous verrons bien ce qu'il va se passer. Et je pense que chacun sera d'accord pour dire que trouver un accord sera préférable à l'alternative évidente. Donc nous allons bien voir si l'on peut l'éviter.
L'Iran confirme mais parle de son côté de discussions indirectes. Alors que faut-il en penser? Que faut-il en attendre? Nous poserons ces questions au chercheur Thierry Coville dans un peu plus d'une heure. Au sommaire également, la réponse européenne aux droits de douane imposés par Donald Trump. On en sait un peu plus sur les pistes envisagées, sur les produits qui pourraient faire l'objet de taxes équivalentes à celles qui entreront en vigueur demain. Des détails dans une demi-heure.
RFI Midi.
Conseil ministériel aujourd'hui en République démocratique du Congo après des inondations meurtrières du week-end à Kinshasa. On fait le point dans Afrique Midi à midi et demi temps universel. Nous irons aussi en Haïti où l'on regrette le nouveau tour de vis de la politique migratoire en République dominicaine. Le voisin se barricade et les Haïtiens s'en désolent.
Chaque jour qui passe, la République dominicaine se montre plus sévère envers les migrants haïtiens. Malgré l'attitude du gouvernement dominicain, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement n'ont pas pris la moindre mesure pour protéger nos compatriotes.
Reportage de notre correspondant à Port-au-Prince à écouter à partir de 13h temps universel. Et puis il y a du football à suivre aujourd'hui. Quart de finale aller de la Ligue des Champions en Europe. Deux matchs ce soir, Bayern Munich, Inter Milan et une affiche de gala entre Arsenal et le Real Madrid. Le journal des sports, c'est à midi et quart, temps universel. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue.
RFI à Paris, 89FM.
Et d'abord le journal. Bonjour Juliette Pietraszewski.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Au lendemain d'une journée noire pour les marchés, après le début de l'entrée en vigueur de droits de douane imposés par les États-Unis, la présidente de la Commission européenne appelle à éviter l'escalade.
Déclaration lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre chinois. Il faut dire que les passes d'armes entre Donald Trump et Pékin se poursuivent. La Chine a promis de combattre les droits de douane américains jusqu'au bout, malgré la menace de Donald Trump de nouvelles surtaxes. Et pendant ce temps-là, toujours en Asie, la bourse de Tokyo rebondit de 6% et après avoir chuté de 8% lundi dans la perspective de négociations entre le Japon et les États-Unis. Plus globalement, les pays d'Asie devront faire face à des tarifs plus élevés que ceux appliqués à d'autres régions du monde. Les craintes d'une flambée de l'inflation sont palpables. À Tokyo, la correspondance de Frédéric Charles.
Donald Trump a réservé à l'Asie ses droits de douane les plus prohibitifs. Aujourd'hui, les bourses en Asie veulent croire qu'il est possible d'obtenir des concessions du président américain. Le Japon a envoyé une équipe de haut niveau à Washington pour négocier. Donald Trump a ordonné un réexamen du rachat de US Steel par Nippon Steel, le géant japonais de l'acier. Le président américain ne serait donc pas aussi extrémiste dans sa volonté de repositionner les États-Unis dans le commerce mondial. Le patron d'un fabricant de machines-outils à Tokyo n'y croit pas. La Chine est plus prévisible que les États-Unis. Le commerce du Japon avec la Chine est plus important que celui avec les États-Unis, dit-il. Les entreprises japonaises ont donc intérêt à se rapprocher de la Chine. Les analystes de la plateforme Smart Karma, centrée sur les marchés en Asie, accueillent ce rebond des bourses avec scepticisme. À commencer par Nicolas Barat. Les corrections boursières sont déjà importantes, moins 20%, et impliquent une récession des bénéfices, dit-il. Une baisse de 15% des bénéfices sur des multiples de valorisation typiques en période de récession implique une nouvelle baisse de 20% selon l'analyste de Smart Karma. Frédéric Charles, Tokyo.
Et les pays de l'ASEAN sont parmi les plus durement touchés par les taxes décrétées par le président américain Donald Trump. La Malaisie va envoyer à son tour une délégation à Washington pour entamer des discussions sur les tarifs douaniers. Déclaration du Premier ministre Anwar Ibrahim. La Malaisie qui se voit imposer des droits de douane de 24% sur ses exportations. L'Indonésie voisine connaît-elle des droits de douane de 32%. Jakarta a également annoncé jeudi dernier son intention d'envoyer des négociateurs à Washington. La bourse de Jakarta, elle, plongeait de près de 8% en clôture.
Il espère obtenir gain de cause lors de sa visite à la Maison-Blanche sur fond de cette guerre commerciale.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou était hier en visite à Washington. Dans les sujets abordés, il espérait aussi entraîner la Maison-Blanche dans une guerre avec l'Iran. Son offensive devra attendre. Lors de sa conférence de presse avec son invité israélien, le président américain a tout de suite écarté cette possibilité. Nous avons des discussions directes avec l'Iran. Elles ont commencé. Elles se poursuivront samedi. Nous aurons une très grande réunion, a déclaré à la presse le président américain. L'Iran a confirmé en mentionnant des discussions de haut niveau mais indirectes qui auront lieu samedi à Oman. Donald Trump signe là une reprise des discussions donc entre les États-Unis et la République islamique. À Jérusalem, Sami Bourelifa.
Depuis une dizaine d'années, Benjamin Netanyahou rêve de frapper le programme nucléaire iranien. Objectif affiché, empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique. L'armée israélienne s'y prépare, 3000 cibles iraniennes ont été identifiées. Mais pas question pour les Israéliens d'aller seuls au combat, avait confié il y a quelque temps une source diplomatique. Israël a besoin de son allié américain pour mener son offensive. Seuls les États-Unis disposent de bombes perforantes capables d'atteindre les installations nucléaires souterraines iraniennes. Sur le plan défensif, les Israéliens n'ont pas non plus le choix. En cas de riposte de Téhéran, ils auraient besoin du bouclier antimissile américain pour protéger leur territoire, comme ça a été le cas à deux reprises en 2024. Alors, ce dialogue amorcé entre Américains et Iraniens irrite les Israéliens. Leur crainte, que l'Iran ne profite du temps de ces tractations pour continuer à développer son programme nucléaire afin de se doter de la bombe. Sami Bourelifa, Jérusalem. RFI.
À noter il y a quelques minutes cette déclaration du chef de la diplomatie iranienne. Il dit qu'un accord peut être trouvé si les États-Unis en ont la volonté et que l'objectif principal des discussions avec les Américains est la levée des sanctions.
Dans la bande de Gaza, 19 morts dans des frappes israéliennes depuis hier soir, annonce de la défense civile du territoire palestinien.
9 personnes dont 5 enfants ont été tuées avant minuit par une frappe sur une maison à Deir el-Bala dans le centre. À l'aube, 10 personnes ont également été tuées dans 2 frappes à Gazaville et Beit Laya dans le Nord. Un média, Palestine Today, a également annoncé ce matin la mort d'un de ses journalistes dans une frappe israélienne sur Khan Younes, hier dans le sud de Gaza. Au moins un autre journaliste est mort dans cette frappe, selon le service de presse du gouvernement du Hamas. Reporters sans frontières a condamné le massacre sans fin du journalisme à Gaza, qui doit cesser.
Alors que les pourparlers lancés par les États-Unis peinent à aboutir à des résultats à propos de la guerre en Ukraine, la Russie affirme ce matin avoir repris une localité à l'armée ukrainienne.
Oui, l'une des dernières localités occupées par les soldats de Kiev dans la région russe frontalière de Koursk. Sur place, les forces ukrainiennes sont désormais pratiquement et totalement chassées. Hier, la Russie a dit régler des questions avant toute trêve globale avec Kiev.
Dans l'actualité également, le nombre d'exécutions dans le monde qui atteint son plus haut niveau depuis 2015, c'est ce qu'indique un nouveau rapport alarmant d'Amnesty International publié aujourd'hui.
Plus de 1500 personnes ont été exécutées dans 15 pays en 2024. Parmi les pays qui ont la peine de mort figurent les États-Unis. Le président américain Donald Trump veut d'ailleurs relancer les exécutions au niveau fédéral. Il a signé un décret dans ce sens. Mais dans la pratique, c'est plus difficile à mettre en œuvre, explique Corina Lahin, professeure de droit à l'Université de Virginie.
Le décret signé par Donald Trump dès son premier jour de mandat laisse penser que le pays s'apprête à prendre un virage répressif, avec à la clé une hausse des condamnations à mort et des exécutions. Mais ce choix pourrait bien se retourner contre lui. En 2020, les exécutions fédérales avaient provoqué une réaction de rejet. C'est ce qui a contribué, par exemple, à l'abolition de la peine de mort en Virginie. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que Donald Trump va sans doute conforter ceux qui soutiennent déjà la peine capitale. Mais il risque aussi de renforcer l'opposition chez ceux qui y sont défavorables. Il faut aussi rappeler que la peine de mort aux États-Unis, c'est d'abord une affaire d'État. Ce n'est pas un domaine sur lequel le gouvernement fédéral peut beaucoup peser. Donald Trump peut bien promettre de rétablir les exécutions, mais en réalité, très peu de prisonniers sont actuellement dans les couloirs de la mort des prisons fédérales.
On federal death row. Corina Lane, professeure de droit à l'Université de la Virginie, des propos recueillis par Harim Lipold.
14h09 à Mamoudzou, près de 4 mois après le passage du cyclone Chido. Le ministre français des Outre-mer arrive cet après-midi sur l'île de Mayotte.
Objectif affiché de cette visite, suivre l'avancée de la reconstruction. Une visite qui a aussi lieu dans le cadre d'une loi programme sur le développement du département français. Des collectifs maorais n'étaient pas d'accord avec la première copie du projet de loi et ont demandé à ce qu'elle soit revue. Des militants sont bien décidés à mettre la pression au ministre, tout comme une intersyndicale qui a appelé à la grève illimitée à partir d'aujourd'hui. aujourd'hui. Correspondance à Mayotte de Lisa Morisseau.
Le cyclone Chido a mis en lumière les retards de développement de Mayotte. Pour y pallier, une loi programme est prévue. Mais la première version du texte ne satisfait pas du tout des collectifs mahorais. Celui des citoyens pour Mayotte 2018 demande en priorité la suppression du titre de séjour territorialisé. Une mesure qui n'y apparaît pas pour l'instant. Actuellement, un titre de séjour obtenu à Mayotte ne permet pas à ses détenteurs de quitter le territoire. Le supprimer permettra, selon le collectif, de réduire la pression démographique liée à l'immigration clandestine. Il demande également le retrait de l'article 20. Celui-ci doit faciliter les expropriations. Ses opposants craignent qu'elle dépossède les Mahorais de leurs terres. Si le collectif n'obtient pas gain de cause, il menace de recourir au blocage de l'île, comme ça a été le cas en début d'année 2024. Les syndicats sont aussi mobilisés contre certaines dispositions de la loi programme. À partir d'aujourd'hui, ils appellent à la grève illimitée, faute d'engagement ferme sur la convergence sociale, pour aligner les droits sociaux avec ceux de l'Hexagone. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
En France, toujours dernier jour du procès des soupçons de financement libyen.
Pour rappel, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir noué en 2005, via ses plus proches collaborateurs, un pacte de corruption avec le dictateur libyen Muammar Kadhafi, afin qu'il finance sa campagne présidentielle de 2007. Aujourd'hui, la parole est à la défense de Nicolas Sarkozy, la défense qui va soutenir la relaxe de l'ancien président avant que le tribunal ne se retire pour délibérer. Les avocats de Nicolas Sarkozy doivent s'exprimer à partir de 13h30 en présence, selon l'entourage de l'ex-chef de l'État. Les prévenus auront ensuite, s'ils le souhaitent, la parole en dernier. Le jugement ne sera pas rendu avant plusieurs mois. Et puis, un point climat, les températures mondiales se sont maintenues à des niveaux historiquement élevés en mars, dans la suite de deux années de chaleur extraordinaire sur la planète. L'Europe, en l'occurrence, se réchauffe le plus vite et le mois de mars a été de loin le plus chaud jamais enregistré, selon l'Observatoire Copernicus ce mardi.
Merci Juliette Pietraszewski, à tout à l'heure. RFI Midi se poursuit avec une première étape en France. On va se pencher pour commencer sur cette initiative contre l'État, accusée de ne pas agir pour s'adapter au changement climatique.
RFI, la France à midi.
Trois ONG et 11 citoyens français attaquent donc l'État. On en parle avec vous, Pauline Berger. Ils reprochent aux autorités de ne pas les avoir protégés contre les effets du réchauffement.
Oui, il y a Jérôme Sergent, jeune paysan dans le Pas-de-Calais. Sa ferme a été inondée 8 fois entre novembre 2023 et mars 2024. Il y a aussi Salma Chaoui, étudiante de 23 ans. Depuis 2018, elle vit dans un appartement insalubre à Paris.
C'est un logement qui, en 2020, développe énormément de moisissures. Quand on a une mère qui est au chômage, qui a 2 enfants à charge, on n'a pas de moyens financiers, on n'a pas de pouvoir politique ni social. Il y a vraiment un sentiment d'injustice et d'impuissance.
À leur côté, 9 autres particuliers et représentants d'associations subissent des préjudices accrus par le dérèglement climatique, comme la crise de l'eau à Mayotte ou la fissuration des maisons à cause du phénomène de retrait-gonflement des argiles. Ils les ont déjà dénoncés localement en s'engageant dans des collectifs et certains ont même entamé des actions en justice. Mais aujourd'hui, ils décident collectivement d'attaquer directement l'État français pour porter la voix de milliers de sinistrés climatiques, comme ils se nomment.
Et dans cette démarche, ils sont donc accompagnés par 3 ONG, Oxfam, Greenpeace et le mouvement Notre Affaire à Tous.
Ces organisations étaient à l'origine de l'affaire du siècle, la première action judiciaire climatique d'ampleur contre l'État français. Elle avait abouti à sa condamnation en première instance en 2021 pour inaction climatique. Aujourd'hui, ces ONG s'associent à ces 11 citoyens victimes du dérèglement du climat pour porter leur voix et dénoncer un enjeu moins connu, la question de l'adaptation. Cécile Duflo est directrice d'Oxfam France.
Le changement climatique, c'est 2 choses. C'est faire baisser les émissions, mais on sait déjà qu'on devra aussi s'adapter aux conséquences. Et là, la responsabilité de l'État, elle est très grande. Il a sorti un plan national d'adaptation au changement climatique, dans lequel il y a des choses intéressantes, mais qui est clairement pas du tout à la hauteur en matière de prise en charge financière, de stratégie, d'appui aux acteurs, notamment aux collectivités locales, pour dire voilà, c'est une mobilisation générale qu'il faut faire, et voilà comment on va agir. Et avec ce recours, on veut obliger l'État à aller plus loin et à mettre en œuvre ses recommandations.
Ce plan d'adaptation dont parle Cécile Duflo, c'est le PNAC 3. Il a pour objectif de préparer la France à vivre avec un réchauffement de plus de 4 degrés à l'horizon 2100. Lors de sa publication le 10 mars dernier, le Haut Conseil pour le climat avait lui aussi émis des reproches. Il soulignait un décalage entre les mesures prises et les besoins d'adaptation.
Un décalage parce que ce qu'il manque dans ce plan, c'est la budgétisation des 52 mesures proposées.
C'est C'est en tout cas l'avis de maître Clément Capdebosse, co-auteur du recours. Il assure que sur plus de 310 actions proposées par le plan, seules 48 font l'objet d'un chiffrage ou d'une évaluation budgétaire. Mais ce n'est pas tout. Selon lui, le plan passe complètement sous silence les vulnérabilités des territoires d'outre-mer au dérèglement climatique. On peut aussi lire dans ce recours que les mesures de protection de la population face à certains risques majeurs comme les inondations ne se voient dotées d'aucun budget. Le gouvernement a 2 mois désormais pour faire un retour aux sinistrés et s'il juge la réponse insuffisante, ce sera au Conseil d'État de trancher.
Pauline Berger.
RFI Midi.
On restera en France pour notre entretien quotidien avec une personnalité politique. Véronique Rigolet, vous recevez aujourd'hui la sénatrice du parti Les Républicains, Valérie Boyer.
Bonjour Valérie Boyer.
Bonjour.
Vous êtes sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône, membre de la Commission des Affaires Européennes du Sénat. Bienvenue à vous sur RFI. Alors que le monde tremble face à la guerre commerciale lancée par Donald Trump, une offensive protectionniste extrêmement brutale qui a fait vaciller hier tous les marchés boursiers et laisse désormais planer le risque d'une catastrophe économique mondiale. Que doit faire l'Europe, Valérie Boyer, face à l'intransigeance du président américain ? Est-ce qu'il faut négocier, temporiser ou bien montrer encore plus les muscles comme le fait la Chine ?
Écoutez, je pense que peut-être tout ça à la fois, mais il semblerait que Elon Musk appelle Donald Trump à plus de réserves et plus de mesures, et notamment en proposant quelque chose de différent. Effectivement, la brutalité entraîne des réactions, mais permet à l'Europe peut-être de se réveiller. Il faut voir dans toute crise une opportunité, et là, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, il faut bien réagir. Agir, pas se mettre des cendres sur la tête. Il est important qu'aujourd'hui, l'Europe se voit et s'organise comme une puissance et non pas comme une super administration tatillonne.
Elon Musk qui propose, vous l'évoquiez, une zone de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Nord, ça serait acceptable ? Ça ne l'a pas été.
Écoutez, on verra bien de toute façon. Les propositions sont brutales, fantasques, imprévisibles, puisque c'est le terme choisi pour qualifier Donald Trump, qui fait un petit peu ce que fait la Chine aussi vis-à-vis de l'Europe, c'est-à-dire d'imposer son rythme, d'imposer ses tarifs, d'imposer ses droits et d'imposer son droit. Nous, en Europe, nous sommes quand même une puissance très importante, un marché, probablement la zone du monde qui fait envie au monde entier, où il fait bon vivre, où la démocratie existe, la protection sociale, la paix, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est quand même une zone exceptionnelle dans le chaos du monde. Donc, à nous, Européens, de montrer ce que nous sommes, ce que nous voulons être. Et puis à nous, Français, de jouer aussi un rôle important dans cette réaction qu'il est important d'avoir aujourd'hui. C'est la maturité de l'Europe aussi qui est testée, et son indépendance.
Et justement, il faut maintenir la pression en ciblant la tech américaine, les fameux GAFAM. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à geler l'accès des Américains au marché public européen, ou est-ce qu'on doit garder certains de ces éléments comme une arme de dissuasion ?
Tout dépend si l'Europe réagit de façon unie ou si l'Europe réagit de façon dispersée, c'est-à-dire que
un pays... Ce que souhaiterait le président américain.
Évidemment, mais charge aux Européens de voir quelle est leur solidarité, leur maturité en la matière. Et ça, c'est un vrai test pour l'Europe. Moi, je suis totalement opposée à une Europe fédérale, bien évidemment. Je crois à l'Europe des nations et des peuples. Mais il est vraiment important. On en revient même, j'allais dire, à l'origine et à l'essence même de l'Europe, c'est-à-dire un marché. Comment ce marché réagit pour défendre ses intérêts, pour défendre son modèle, pour défendre son modèle démocratique ? C'est de tout ça dont il s'agit. Maintenant, est-ce que nos dirigeants seront assez forts, assez unis pour montrer que ensemble ils pèsent plus que de façon dispersée ? Mais on n'est pas à l'abri d'un pays qui va négocier tout seul.
L'Europe pourrait envisager de relancer ce qui fait la base même de la construction européenne, c'est-à-dire un marché véritablement communautaire, ou bien encore penser à redéployer des accords de libre-échange avec d'autres zones.
Ben pourquoi pas? Moi, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi l'Europe est le seul endroit du monde qui accepte le libre-échange, même qui accepte la liberté, dont les frontières ne sont jamais respectées puisqu'elles sont franchies en permanence. Hein. Je rappelle que l'Europe a accepté l'équivalent d'un nouvel État de l'Union dans ces dernières années, à peu près 8 millions de migrants, par exemple, qui viennent et qui ne repartent jamais, qui ne peuvent jamais repartir, quelle que soit la façon dont ils sont rentrés, qu'ils aient été invités ou pas. Et ça, il n'y a pas d'autre endroit au monde où ces choses-là se produisent. Et il en va de même pour les marchés. Le libre-échange, c'est bon quand c'est dans une zone, mais ça peut pas être le libre-échange pour tout le monde, sauf pour les Européens, qui eux sont soumis. Regardez les relations avec la Chine, par exemple. Qui postule à nos marchés publics, on est chez les fous. Je pense que ça, par contre, il faudrait vraiment revoir de façon urgente notre façon. La liberté et le libre-échange, ça marche quand on est deux, mais pas quand il y en a un qui boxe avec les mains dans le dos.
Et est-ce que dans ce cadre, une relance de l'accord avec le Mercosur pourrait être une solution, à votre sens?
Vous savez que nous avons... Moi, je me suis opposée au Mercosur justement parce que je trouvais que c'était un accord déséquilibré, et notamment déséquilibré pour notre agriculture. Je crois que la façon dont la Russie, la Chine et les États-Unis maintenant réagissent vis-à-vis de l'Europe doit nous faire poser d'abord les questions. Quelle est notre souveraineté, notre autonomie alimentaire? Qu'est-ce que nous produisons aujourd'hui? On ne peut pas être la zone qui est ouverte aux quatre vents, à tous et à tout, et ne plus rien produire chez nous et ne pas protéger ce que nous produisons, alors que nous le produisons avec des normes environnementales, écologiques, etc., qui sont probablement les plus élevées du monde. Donc tout cela doit nous amener à réfléchir, à nous réorganiser rapidement pour retrouver notre souveraineté dans tous les domaines, y compris celui de l'alimentation.
Un autre dossier international, Valérie Boyer, c'est celui des relations entre Paris et Alger qui fait toujours couler beaucoup d'encre après la visite du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrou, il y a deux jours, et qui a acté l'amorce d'une normalisation après 8 mois de crise. Est-ce que la diplomatie l'a emporté, Valérie Boyer, et comment ne pas y voir un désaveu du ministre LR de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui avait engager le bras de fer avec Alger sur le dossier notamment des OQTF.
Je ne vois pas ce que la diplomatie... effectivement, le dialogue a repris. Vous dites que ça fait couler beaucoup d'encre, mais ça ne fait pas couler que de l'encre. Ça fait couler aussi énormément d'euros, énormément de transferts d'argent de la France vers l'Algérie. Je rappelle qu'on ne vend plus grand-chose à l'Algérie. Plus de blé, plus de viande. Notre gaz, nous l'achetons ailleurs. Donc aujourd'hui, et nous avons en revanche la plus forte communauté étrangère en France est algérienne.
Donc, vous félicitez de cette normalisation?
Non, moi, j'attends d'avoir les résultats. Pour l'instant, je ne vois rien venir. Il est absolument nécessaire de revoir les accords de 68 et les accords des années 90. Ça, c'est une ardente obligation. Et il est temps d'avoir des relations matures avec l'Algérie. L'Algérie ne peut plus être dans cette rente du mépris avec la France. Peut-être que cette normalisation aurait eu du sens si Boualem Sansal était revenu avec justement si la diplomatie avait fait avancer sur le sort de Boualem Sansal. Donc moi j'attends d'abord d'être fixée sur le sort de Boualem Sansal et ensuite qu'on amorce de véritables relations d'égalité. Aujourd'hui, il faudrait savoir combien l'Algérie coûte à la France. Quels sont les flux financiers entre la France et l'Algérie? Est-ce que ce sont des relations matures? Est-ce que ce sont des relations équilibrées? Je ne le crois pas.
Tant que Boualem Sansal n'aura pas été libéré, vous dites que les relations ne seront pas vraiment normalisées, c'est la priorité?
Ça me semble être la priorité, c'est un symbole. Également, comment un pays qui prétend être une grande nation retient un écrivain âgé et malade de surcroît, mais surtout un écrivain. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a vu. Enfin, quand on a retenu Solzhenitsyn, Vaclav Havel, c'était quand même le signe d'un pays qui n'était pas démocratique et qui n'avait pas de relations. Je veux dire de relations normales d'État à État. C'est ce chantage avec un otage comme Boualem Sansal doit cesser. Alors donc, Bruno, il est absolument nécessaire de mettre la pression pour que Boualem Sansal soit libéré au plus vite. Et puis ensuite d'avoir. Est-ce que vous trouvez normal que l'Algérie ne reprenne pas ses ressortissants? En dépit de toutes les conventions et de tout,
justement,
tout le droit
Bruno international. Retailleau dit qu'il jugera sur les faits. Il y a également question des OQTF. Si l'Algérie ne reprend pas ses ressortissants expulsés, est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau pourra rester au gouvernement? Il avait déjà agité la menace d'une démission. Est-ce que sa position serait alors tenable dans la coalition gouvernementale?
Ce qui n'est pas de Naples, ce n'est pas la position de Bruno Retailleau, c'est la situation qui est faite à la France et aux Français. Vous savez combien coûte une place dans un centre de rétention aujourd'hui? C'est 600 euros par jour. À un moment donné, ce n'est absolument pas normal. On ne peut pas considérer qu'on a des relations normales avec un pays quel qu'il soit qui ne reprend pas ses ressortissants. Je ne parle même pas des binationaux, je ne parle même pas des personnes. Je parle des personnes 100% algériennes qui ont un passeport algérien en bonne et due forme. Donc, ces choses-là ne sont pas possibles. De la même façon que la façon dont sont traitées les personnes qui sont françaises, qui sont en Algérie non plus. On a très peu de consulats. Il y en a 22 en France.
À un moment donné,
il faut que les relations soient absolument équilibrées.
Merci Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Une bonne journée à vous.
On en parlait à l'instant avec votre invitée Véronique Rigollet. Après 8 mois de crise diplomatique, la France et l'Algérie se rapprochent, mais il reste encore de très nombreux sujets ultra sensibles, sujets qui interpellent tous ceux qui ont des liens avec Paris et Alger, un pied de chaque côté de la Méditerranée. Notre reporter Marie Cazadebé est allée à leur rencontre à Sartrouville, près de Paris.
Donc sur tous les textes, sans aucune exception, il y a des coupes.
Tous les vendredis soirs, Abdelweb Sefsaf, le directeur du théâtre de Sartrouville, anime un atelier pour comédiens amateurs. Sur 14 participants, les trois quarts ont des liens avec l'Algérie.
Malika, mes parents sont originaires d'Algérie.
Samira, mes parents sont venus quand ils étaient jeunes.
Carole, j'ai un grand-père qui est venu d'Algérie dans les années 40.
Mohamed, je suis venu en France à 8 ans, en 1968.
Ils ont entre 42 et 65 ans. Ces quatre ont accepté de nous raconter comment ils avaient traversé cette énième crise entre Paris et Alger.
Comme une violence inouïe, parce que ça remet en cause la question de la légitimité.
Moi, ça m'a mis très mal à l'aise. Et je crois que ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand tu as eu une espèce de négation par rapport aux exactions de la France en Algérie.
Pour nos quatre comédiens amateurs, c'est l'un des plus gros nœuds. La France ne parvient toujours pas à regarder la réalité de son passé en Algérie.
Je crois que la difficulté, elle est là. On n'arrive pas à s'entendre sur l'histoire. Être algérien, pour les gens, ça veut aussi dire être musulman.
On a l'impression d'avoir un double handicap, quoi.
Oui, c'est la double peine, en fait. Tous les musulmans sont attaqués aujourd'hui. Mais l'Algérien, c'est la cible. Certains politiciens se sont dit, voilà, on va toucher l'Algérie. Parce que tous, ils ont des comptes à régler avec les Algériens.
Alors, j'ai l'impression qu'être français intégré ou assimilé, c'est vraiment renoncer à ses origines. Et pour moi, ça, c'est une hérésie.
Alors rien d'étonnant si le projet théâtral que leur a proposé Abdelweb Sefsaf les inspire. Il s'intitule « Français du futur » et ils l'écrivent ensemble.
Derrière ton destin foulé de rêves victorieux.
Si j'ai eu besoin moi de faire ce travail, c'est parce que quand j'étais enfant, j'étais assez troublé par le fait qu'on me qualifiait non pas de Français de première génération, mais plutôt d'immigré de seconde génération. Comme si mes enfants allaient être des immigrés de troisième génération et ainsi de suite, jusqu'à ne jamais devenir Français.
Mais c'est aussi son histoire qui lui fait dire que Paris et Alger n'ont pas d'autre choix que de se réconcilier.
La France a une histoire de 200 ans avec un pays arabe qui s'appelle l'Algérie, et on ne peut pas la balayer d'un revers de main. Ce n'est pas possible. C'est d'abord nier l'histoire, c'est, je dirais, insulter la mémoire des disparus, mais c'est pire encore, insulter la mémoire des vivants. On tente de réduire l'écartèlement auquel on nous assigne, mais à un moment donné, ça devient intenable.
En plus,
Pour ne pas se sentir écartelée, la petite troupe a décidé de se servir de son vécu, de ses richesses, pour dresser ensemble le portrait de ce qu'elle entend incarner, le français du futur.
Reportage de Marie Casadebéard, trouvé sur l'appli RFI Pure Radio.
Ce mardi sur RFI.
Que peuvent nous apprendre les insectes ?
Autour de la question avec Charlie Dupiau.
Des fourmis qui cultivent des champignons pour se nourrir, des abeilles qui guident leurs congénères grâce à une danse d'orientation, les insectes nous étonnent par leur faculté et leur intelligence. Ces animaux ont-ils une forme de conscience ? Sont-ils vraiment si différents de nous ?